vivrons-nous demain ? Par Jean-Pierre Estrampes. Architecture, urbanisme, territoire à cadre de vie. Bonjour à tous et à toutes, nous allons aujourd'hui parler de l'origine des villes. Il s'agit d'un sujet assez complexe et qui fait l'objet certainement de grands malentendus aujourd'hui. L'intérêt de ce sujet, c'est que, pour revenir au titre original de l'émission, « Ouvrirons-nous demain », comme je vous l'avais déjà dit, c'est d'abord où vivons-nous aujourd'hui et aussi ce regard sur le passé pour essayer de comprendre le futur, de comprendre l'origine des villes. Alors, nous sommes depuis le 19e siècle dans une vision, on peut dire, scientiste, je l'ai déjà dit, science et technique qui ont, dans ce 19e siècle et ce 20e siècle, des succès tellement remarquables qu'on en arrive à penser que tout dépend de cette évolution, de ce cheminement du progrès. Et il est tentant, comme il a été au 19e siècle, de mettre l'art et l'art des villes et la manière dont on vit dans ce même processus de découverte scientifique et de progrès. Simplement, la vision que nous pouvons avoir aujourd'hui de notre société est très dépendante de ce 19e siècle. Et cette complexité entre l'art, la manière de faire les villes, demanderait un regard nouveau. Et effectivement, ce que l'on entend dire, c'est aujourd'hui comment inventer la ville de demain, c'est-à-dire qu'on pense la ville comme un objet technologique. Et mon propos aujourd'hui, d'essayer de vous démontrer le contraire, que la ville est un continuum à travers l'histoire et qu'elle a commencé au même moment de l'humanité et elle continue et continuera, évidemment sous des formes qui sont différentes, mais intrinsèquement, fondamentalement semblables. Alors là aussi, ça nous amène à une vision de la préhistoire et d'une compréhension de notre passé caché, qui est la préhistoire, et d'avoir une vision qui est différente de celle qui est publiée notamment par des gens comme Coppens avec des films populaires qui sont l'Odyssée de l'espèce où on voit une progression de l'Afrique vers l'Europe. Bon, une vision qui est tout de même assez racialiste et on peut dire ethnocentrée ou plutôt centrée sur l'Occident et c'est assez fâcheux, je pense, même si aujourd'hui les anthropologues remettent en question cette vision-là, mais on les entend peu parce que les médiatisés ont pris le dessus dans la communication. Alors, par exemple, cette vision préhistorique, elle commence avec les chasseurs-cueilleurs et on pense qu'il y avait uniquement des hommes préhistoriques qui bougeaient avec des tentes et ça a duré des dizaines de milliers d'années. Et puis, petit à petit, on est allé dans des villages et les villages sont devenus plus structurés et on a une évolution jusqu'aux villes d'aujourd'hui. Et donc, on va rêver les villes de demain. Nous avions parlé de cette utopie qui avait été très à la mode dans l'après-guerre et qui ressurgit aujourd'hui. Donc en fait, elle est basée sur cette vision évolutionniste, mais on pourrait opposer une autre vision, sachant que on ne sait pas grand-chose de cette préhistoire. Elle est quand même tributaire de la préhistoire telle qu'elle a été fondée au XIXe siècle, qui était justement le siècle de cet évolutionnisme. On avait le darwinisme, qui est une réalité que l'on collait sur toutes les avancées de l'humanité et sur la culture notamment. Donc on pourrait aussi avoir une thèse totalement différente et de penser que, par exemple, les grottes et les cavernes, qui sont les seuls endroits où on a des preuves vraiment tangibles avec les peintures pariétales, n'étaient pas entourées d'abris sommaires ou de tentes, c'est-à-dire sur des dizaines de milliers d'années, mais il y avait un habitat qui pouvait être constitué entre d'un habitat dense et d'un habitat structuré, et les grottes auraient été une sorte d'atelier par rapport à ces activités dont il ne reste rien. Alors, c'est pas du tout une vision utopique. Si on regarde par exemple l'Afrique, on sait qu'en Afrique, il y a eu des civilisations dont il ne reste très peu de traces, mais dont on ignore tout, donc on n'a absolument pas de vision, de témoignages écrits, notamment dans des civilisations qui ont été au Nigeria, où il y a 15 siècles, 20 siècles, et on a des civilisations qui étaient des royaumes avec des villes, et on le sait, et puis ça a été, pour des raisons que l'on ignore, mais en tout cas pour des changements, des basculements de civilisation, on est passé d'un statut de sédentaire à un statut nomade. Et en fait, il s'agit, entre sédentaire et nomade, et sédentaire et mobile, des deux formes de l'humanité. Et nous sommes nous-mêmes... À travers ces deux concepts, nous sommes à la fois des sédentaires et à la fois des nomades et des mobiles. Nous avons ces deux tentations, l'enracinement et la mobilité. On en avait déjà parlé de cela. Mais cette mobilité ou cette sédentarité se traduisent chaque fois par des établissements construits qui sont totalement différents. Un vont donner des villes, vont donner des villages, vont donner cet ancrage et cette modification des territoires, et l'autre, la mobilité, va être sur les réseaux et sur le déplacement. Donc, de penser aussi que ce sont les techniques et l'évolution des techniques qui façonnent le monde à la place de la culture, et certainement aussi une vision de l'époque. Alors, comme je disais à l'instant, c'est vrai que la technique est suffisamment spectaculaire pour nous impressionner dans ses progrès, mais on oublie une chose, c'est que si on sait technique, même si elles sont liées, puisqu'en fait les avancées technologiques s'appuient sur les découvertes de la science, qui découvre la complexité du monde petit à petit, mais la technologie est un outil au service des civilisations. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, on a tendance à penser que ce sont les découvertes, par exemple Internet, comme la voiture, le véhicule automobile au XIXe siècle, ou la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, qui ont modifié nos villes. Eh bien, je pense exactement le contraire. Ce sont les modifications de société qui sont apparues à ce moment-là, c'est-à-dire une société mobile, et cette société mobile a créé les outils dont elle avait besoin. Je prendrai un exemple qui est celui de Paris, par exemple, et Paris qui, on le sait, à la fin du XIXe siècle, sous Napoléon III, est une ville qui devient la ville lumière, qui a des grandes avenues, des grandes rues, et qui s'adapte à la circulation. Mais elle ne s'adapte pas à la circulation automobile, parce que l'automobile n'existe pas. elle s'adapte à la civilisation des chevaux et donc la traction hippomobile, c'est-à-dire dans un continuum historique qui existait depuis des millénaires, et ce n'est qu'après que l'automobile va arriver. Alors, par exemple, on a au moment de... En 1875, au moment de la création des grands magasins, c'est-à-dire que les grands magasins n'arrivent pas avec le déplacement automobile, il est avant le bonheur des dames, les grands magasins qui sont créés, le bon marché, par Aristide Boussicault, qui va inspirer le bonheur des dames du roman de Zola, ces grands magasins qui changent totalement avec ce qui existait avant. On a les grands magasins avec les marchandises à disposition et des gens qui arrivent sur un périmètre très très grand, de la même manière que nos hypermarchés d'aujourd'hui. Et cela arrive avant l'automobile, et d'une manière tout à fait étonnante, le promoteur Boussicault de ces grands magasins est fait des circulations hippomobiles avec des omnibus qui vont chercher les gens dans les quartiers et dans les banlieues et les amènent dans ces grands magasins. Et il y a évidemment un grand nombre de ces véhicules tirés par des chevaux, et on est obligé de faire des parkings. C'est pas des parkings à l'époque, bien sûr, mais c'est un garage à étages hippomobile sur l'île de la Cité, exactement comme un parking automobile d'aujourd'hui. Alors progressivement, les chevaux seront remplacés par une traction motorisée. Et ça sera petit à petit ce remplacement, mais on voit bien que le changement de civilisation était antérieur, et c'est ce changement de civilisation qui a fait créer la technologie. Alors ça, c'est, me semble-t-il, un exemple frappant, et on peut dire aussi, à l'inverse, par exemple, en Afrique, on dit les Africains ne connaissaient pas la roue. Bien sûr que les Africains connaissaient la roue, simplement la civilisation de ces pays ne voulait pas se servir de la roue, parce que la roue allait modifier leur culture, leur civilisation, qui était faite de portage humain, et que la roue allait impliquer des voies, allait impliquer un changement totalement de société, et certainement une sédentarité n'était pas souhaitable pour la culture en unité, communauté et en peuple. Donc on voit que la technique est un outil dont se servent les civilisations. Et alors pour finir et pour parler d'Internet, Internet est un avatar d'une autre civilisation mobile, et les réseaux sociaux, c'est pas eux qui changent la société, c'est la société qui, en changeant, a créé les réseaux sociaux. On va marquer une petite pause musicale, on va écouter, alors évidemment, une musique de circonstance qui est Caravan de Duke Ellington. Oui, nous étions avec Duke Ellington, avec Caravan, effectivement, qui illustre les civilisations qui sont les civilisations mobiles. Donc, il n'y a pas entre civilisation sédentaire et civilisation mobile des différences qui sont de progrès ou de régression. Il y a simplement deux modes et sous des formes évidemment différentes. Nous ne sommes plus, nous ne sommes pas, par exemple, une caravane de chameaux, mais nos déplacements, on peut dire permanents, dans l'espace de nos territoires, dans l'espace européen et dans l'espace mondial aujourd'hui, évidemment, n'a rien à voir avec la sédentarité, et notamment dans un pays comme le nôtre, qui est un pays de ruralité, un pays de village, de construction, et certainement la France est un pays qui a un problème avec ce monde de mobilité. Historiquement, contrairement à ce qui est dit, nous ne sommes pas un pays d'immigration ni de migration par rapport à nos voisins qui ont été des conquistadors, des navigateurs, les Portugais, les Espagnols, les Anglais. Et donc, nous sommes adossés à la mer et pas du tout retournés vers nos terres, et pas du tout des voyageurs. Et certainement, la France, dans ce malaise français qui est assez permanent et que l'on a du mal à diagnostiquer, j'émets cette hypothèse que c'est ce monde de mobilité qui justement nous crée problème parce que nous n'avons pas une bonne vision. Alors, les symptômes, ils sont évidemment assez marquants juste dans notre pays. On peut aussi prendre l'attitude paradoxale de l'écologie, du succès de l'écologie dans notre pays. Il est évident que je ne suis pas en train de faire une critique de l'écologie, mais plutôt un diagnostic de l'écologisme. Si on voit par exemple, d'une manière surprenante, c'est que des gens qui sont des mobiles. Je parle par exemple d'Artus Bertrand, qui est un photographe aérien qui a couvert pendant 10 ans le Paris-Dakar, et où Nicolas Hulot, producteur qui parcourt la planète, où les Greta Thunberg que l'on voit naviguer et se déplacer sont les promoteurs d'un monde qui ne bougerait pas, qui serait un monde où on retrouverait une sédentarité et où tout déplacement serait interdit et mettrait en danger alors la planète, enfin peu importe ce que ça mettrait en danger, mais ce qui est intéressant, c'est de voir cette attitude qui nous renvoie à un passé qui est pas très loin, où effectivement, par exemple, dans notre France rurale, qui est donc tous ces territoires qui sont nos nombreuses communes. On voit par exemple que les mariages, au moment où la bicyclette devient populaire, on a une extension des mariages qui étaient souvent ceux d'abord des parentalités, puis les voisinages, et on restait dans une zone de quelques kilomètres, de quelques lieues. Et on voit donc dans les années 1920 à peu près, où la démocratisation de la bicyclette, eh bien, on voit les jeunes gens qui peuvent aller dans des balles plus loin, et on a des mariages qui se font sur une aire géographique beaucoup plus importante. C'est ça la France du XXe siècle. Et on oublie justement aujourd'hui cette mobilité et cette sédentarité. Et cette mobilité qui est questionné à travers la politique aujourd'hui, et on a vu la semaine dernière notamment que on a pu voir dans les programmes aujourd'hui pour les municipales une sorte d'appel à la sédentarité qui est assez surprenant dans le monde d'aujourd'hui. En fait, la question aujourd'hui des villes, ce n'est pas comment se déplace-t-on, qui est en fait justement ce que l'on retrouve dans tous les programmes. Le problème n'est pas la trottinette électrique ou le métro. La question centrale, c'est pourquoi se déplace-t-on et pas comment se déplace-t-on. Et c'est ça la question qui demande à être posée. Pourquoi se déplace-t-on? Et c'est justement la question du sédentaire. Pourquoi ne restons pas chez nous et pourquoi bougeons-nous? Alors les réponses sont diverses. Et on peut lire les enquêtes et puis on peut regarder dans notre propre vie quels sont nos besoins de déplacement, quelles sont nos envies de déplacement, et le problème du véhicule qui transporte, à mon sens, est un problème secondaire par rapport à ce problème central. Alors, je faisais ce parallèle dans un monde qui n'est pas très très loin, qui ne renvoie pas au Moyen-Âge, mais à une époque tout à fait contemporaine. Il y a encore des gens qui vivent aujourd'hui, qui ont vécu ces périodes de très faible mobilité. Et je pense que ce que je vous disais tout à l'heure, ça fait partie certainement des angoisses existentielles des Français. Le phénomène des gilets jaunes, par exemple, tout interpréter, mais en fait, il a été une révolte sur l'augmentation du prix de l'essence et par une taxe carbone qui voulait dire, c'est-à-dire, on disait à un petit peuple, on vous empêche de vous déplacer où vous ne devez pas vous déplacer. Donc, il y avait une double injonction, à la fois, on peut dire, morale, c'est-à-dire, la vertu, c'est de ne pas à bouger, et aussi avec une sanction financière qui était à travers les taxations. Et cela, ça n'a pas été théorisé ainsi par les Gilets jaunes, mais en fait, je pense que c'est au cœur de cette révolte et de cette incompréhension entre les ce que j'appelle les médiatisés, c'est-à-dire les urbains, qui, contrairement à ce qui est dit, et je me répète, mais c'est quand même assez important, ne représentent pas la majorité des Français, mais ne représentent qu'une infime minorité. On est à certainement à 5% des populations qui sont des populations dans les centres urbains. Et je lisais aujourd'hui un article par un dénommé Lussault qui a eu son aire de gloire en étant responsable des programmes d'enseignement sous le président Hollande et qui a été débarqué par l'actuel ministre de l'Éducation nationale et qui sévit dans un organisme d'urbanisme géographique urbain et qui déclarait donc il y a encore 15 jours que on venait de passer le seuil où plus de 50% des Français vivaient dans les centres urbains. Alors, c'est quand même assez effarant, parce que ce que je suis en train de dire n'est pas est vérifiable par tout le monde. Il suffit de regarder autour de soi, d'une part, avec l'observation, et puis vous avez toutes les statistiques à la disposition, vous avez le nombre des votants, et on voit très bien que, par exemple, l'exemple de Toulouse que j'avais cité, où il y a une ville qui fait 800 000 habitants dans un grand Toulouse, avec les communes de l'agglomération, et il y a un centre-ville qui représente 80 000 personnes. On a une baisse régulière de la population des centres-villes. Cette baisse est amorcée, la baisse des populations des villes denses est amorcée depuis les années 70. À peu près, le géographe Morricanide Hébrard le situe en 1975, c'est-à-dire qu'il y a le mouvement des campagnes vers la ville dans l'après-guerre, et à partir de 1975, le phénomène s'inverse, et aujourd'hui, nous avons en France une croissance de population dans le rural, mais qui évidemment pas avec des paysans, mais dans les communes, dans les villes moyennes, même s'il y a certaines qui perdent des habitants, mais globalement la population française augmente et la population des centres-villes baisse. Paris, la population l'année dernière a baissé de 12 000 habitants, ce qui n'est quand même pas rien. Et ce phénomène est de toutes les villes. Donc il est quand même assez phénoménal que tous les médias disent exactement le contraire, que aujourd'hui c'est les déserts français, la dépopulation des territoires, et que tout le monde se rue vers les centres-villes. C'est quand même sidérant, parce que tout le monde peut voir que c'est pas vrai. Voilà, donc je suis un peu sidéré, je me répète, par ce manque de lecture juste de notre pays, et je pense que une grande partie de nos inquiétudes vient du fait que nous n'avons pas une analyse juste de ce qui est pourtant sous nos yeux, c'est-à-dire, pour résumer, d'un monde de mobilité. Alors après, la question de savoir, comme je vous disais, quels sont les moyens de déplacement mécanique ou autre est un débat intéressant, mais le thème essentiel est de savoir comment notre économie peut fonctionner aujourd'hui si notre économie ne bouge pas, tant dans les rapports avec l'extérieur de notre nation que à l'intérieur de notre nation. Et aujourd'hui, je pense que l'essentiel de l'économie est justement le mouvement, les échanges, et c'est très inquiétant de pouvoir penser que l'économie de notre pays, par je ne sais quel artifice climatique, environnemental, pollution, je ne sais quoi, on va immobiliser au sol nos capacités, nos intelligences, notre production pour satisfaire je ne sais quel fantasme qui est totalement dépensé. Voilà, donc nous nous retrouvons la semaine prochaine. C'était Où vivrons-nous demain ? Merci à Hugo qui officie à la technique. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site d'Esprit Occitanie et sur l'application smartphone. Bonne journée à toutes et à tous et à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Où vivrons-nous demain ?